Vous écoutez, on lit pour vous.
Pas de pitié pour les aînés. Un éditorial de Jean-Benoît Ladeau, paru le 27 novembre 2024 dans Avenue.ca. Québec et Ottawa ont tour à tour infligé un soufflet aux aînés. Explication. Québec et Ottawa ont tour à tour infligé un soufflet aux aînés récemment. Le ministre Girard a annoncé la disparition du crédit d'impôt de 1 400 $ promis aux travailleurs de 60 à 64 ans. Et tout ça sur fond de pénurie de main-d'œuvre. Mais les aînés n'étaient pas au bout de leur peine. Justin Trudeau a fait une annonce de Père Noël le 21 novembre annonçant un congé de taxe sur les produits et services, TPS, et un chèque de 250 $ qui sera envoyé en avril aux travailleurs canadiens qui font moins de 150 000 $ par année. Il vous serez sans doute étonné de savoir que les millions d'aînés qui n'ont pas travaillé en 2023 n'y auront pas droit. Quand on connaît la précarité financière d'un grand nombre de retraités, non seulement cette annonce qui arrive de nulle part est condamnable par son côté parfaitement arbitraire, mais elle est aussi irresponsable qu'électoraliste. Et elle se soldera par une facture de 6,3 milliards de dollars. Quand on pense à tous les besoins criants et au refus du gouvernement de majorer le supplément de revenus garantis SRV pour les aînés les plus démunis, des cadeaux empoisonnés. L'annonce de Justin Trudeau comprend un cadeau de Noël et un coco de Pâques. Pour commencer, il souhaite suspendre la TPS pour une période de 2 mois du 15 décembre au 15 février. Pendant cette période, il n'y aura plus de TPS sur les chips, les gâteaux, la bière, le vin, votre facture de resto et de bar, les vêtements, les couches et bien sûr les arbres de Noël. Cette mesure, dont profiteront également les aînés, coûtera 1,6 milliard de dollars, estime-t-on à Ottawa. En fait, elle pourrait même coûter plus cher si les consommateurs canadiens en profitent pour anticiper leurs dépenses afin de stocker plus de chips, de bière et de couches. La seconde mesure est celle du bon vieux chèque électoral pudiquement appelé « remise pour les travailleurs canadiens ». Au début du printemps, 18,7 millions de Canadiens qui ont travaillé en 2023 recevront un beau coco de Pâques sous la forme d'un beau chèque de 250 $. Coût du coco, 4,7 milliards de dollars. Cette remise exclura toutefois les aînés qui n'ont pas travaillé, mais qui continuent de payer des impôts, qui votent aussi et dont le revenu est pour un grand nombre insuffisant pour faire face au coût de la vie. Mis ensemble, le cadeau et le coco coûteront la bagatelle de 6,3 milliards de dollars qui seront saupoudrés sur l'électorat canadien sur une période d'un peu plus de 4 mois. Si l'on fait abstraction du camouflet servi aux aînés, on est saisi de vertige devant un tel déni du bien commun. Le chèque, en particulier, n'est qu'une vulgaire opération de saupoudrage d'argent que les contribuables ont versé en impôts afin que l'État assume ses responsabilités. Comment comprendre que le gouvernement libéral retourne à certains, mais pas à d'autres? Et l'on sait depuis les élections québécoises de 2022 combien ce genre de cadeau est empoisonné. Rappelez-vous, le premier ministre François Legault avait assuré sa réélection avec 2 chèques de 500 $ qui ont coûté 7 milliards de dollars au Trésor public qui n'arrivent pas à maintenir correctement les services de santé, d'éducation, de logement ou même de francisation des immigrants. Que faire avec 6,3 milliards de dollars? Qu'est-ce que Justin Trudeau aurait bien pu faire avec 6,3 milliards de dollars? Il aurait pu aider les provinces à financer, sans condition, plus de logements sociaux. Il aurait pu faire un cadeau au système de santé provinciaux, déjà saccagé par les coupes dans les transferts fédéraux. Il aurait aussi pu garder l'argent dans sa cour en entretenant mieux les infrastructures fédérales. Mais tant qu'à émettre un chèque, pourquoi ne pas l'avoir réservé aux plus démunis, aux aînés, aux familles monoparentales, à qui l'on aurait pu remettre bien davantage que 250 $? Non, l'argent ira aux travailleurs, incluant les pauvres citoyens qui gagnent jusqu'à 149 999 $ par an. Donc, un couple gagnant un revenu familial de 200 000 $ ou 280 000 $ recevra 500 $, mais l'aîné qui n'a que ses rentes publiques pour vivre n'aura droit à rien. Ce mauvais plan, indigne et bête, révèle également une sorte d'indifférence à l'endroit des aînés qui ont pourtant les mêmes dépenses que tout le monde. La claque est d'autant plus pénible, rappellent les organismes comme le réseau FADOC, que le gouvernement fédéral persiste à ne pas honorer sa promesse d'augmenter les prestations mensuelles du supplément de revenu garanti, SRG, pour les 65 ans et plus qui gagnent moins de 22 000 $ par an, soit le seuil de la pauvreté. Il refuse obstinément de réparer une autre injustice de 2022 alors qu'il avait réservé aux personnes de plus de 75 ans la bonification de 10 % de la rente de la sécurité de la vieillesse. Désolé, on n'a pas d'argent. Le tordeur à Québec. Les aînés sont également les premiers à passer dans le tordeur à Québec. Dans sa mise à jour économique de jeudi dernier, le ministre Éric Girard a confirmé la rumeur voulant que le gouvernement révise actuellement les 277 crédits d'impôt gouvernementaux. Même si le ministre refuse de dire qu'il s'apprête à engager le Québec dans une politique d'austérité, il faut reconnaître qu'il est juste que le gouvernement révise ses critères de temps à autre. Là où le bât blesse, c'est qu'il n'a pas attendu le résultat final des études pour couper dans le crédit d'impôt pour prolongation de carrière. Quelque 194 000 travailleurs expérimentés âgés de 60 à 64 ans perdront donc un crédit d'impôt de 1 400 $ dès l'an prochain. Éric Girard justifie cette décision hâtive par le fait que ce crédit visait à combler le retard québécois sur l'Ontario en matière d'âge de départ à la retraite. Or, le rattrapage a eu lieu. L'âge moyen de départ à la retraite est passé de 61 ans à presque 65. Le problème étant corrigé, explique le ministre, il veut concentrer l'avantage sur les travailleurs plus âgés. Ainsi, ceux qui continueront de travailler après 65 ans verront, eux, leur crédit augmenter de 1 540 $ à 1 750 $. Le plafond d'admissibilité au crédit maximal sera rehaussé de 42 090 $ à 56 500 $. Mais ce faisant, le ministre rehausse aussi le plancher. Pour avoir droit au crédit, il faudra désormais avoir gagné 7 500 $ au lieu de 5 000 $. Autrement dit, si vous faisiez 300 heures par an pour profiter du crédit, vous auriez besoin d'en faire 450 l'an prochain. Au lieu de 6 heures par semaine, il faudra en faire 9. Mais si vous avez moins de 65 ans, tant pis. Peu importe votre situation, vous serez parmi les 194 000 travailleurs aînés à qui l'on avait promis un crédit de 1 400 $ et qui viennent de le perdre. Ottawa et Québec semblent non seulement ignorer la réalité financière des aînés, ils leur tournent carrément le dos. C'était « Pas de pitié pour les aînés », un éditorial de Jean-Benoît Nadeau, paru le 27 novembre 2024 dans avenue.ca.
Une femme qui illuminait le monde, un texte de José Lapointe et Éric Clément, paru le 12 décembre 2024, dans la presse. Une présence, un sourire, une femme rayonnante et généreuse, c'est ce dont se souvient l'ancien directeur du Musée national des beaux-arts du Québec, John R. Porter, quand il pense à Madeleine Harbour, morte le mercredi 11 décembre 2024, à l'âge de 101 ans. J'en ai rencontré des femmes extraordinaires dans ma vie. Madeleine, elle était hors du commun. C'était toujours une illumination quand on la rencontrait. John R. Porter se souvient qu'elle l'appelait toujours « mon directeur de musée ». Il se souvient de son humour, de sa grande amitié avec Jean-Paul Riopel. En 1999, il l'avait convaincue de faire une exposition consacrée à son travail. Elle disait « Vous êtes certain que ça va tenir la route ?» C'était un beau personnage, Madeleine. C'est aussi une femme qui occupe une place singulière dans l'histoire de l'art au Québec, rappelle-t-il. Une précurseur polyvalente et multidisciplinaire, bien avant que ce mot soit à la mode. On va s'en souvenir comme d'une pionnière du design québécois contemporain. En 2000, c'est Sophie Gironnet qui a eu le mandat de réaliser la rétrospective Madeleine Arbour pour le Musée national des beaux-arts, dont le titre était « Espace de bonheur ». C'est aussi celui du livre tiré des heures d'entretien qu'elle a eues avec elle. Ce titre, ce n'est pas par hasard. Elle créait des lieux pleins d'élégance et de zénitude, très blancs et épurés, explique la cofondatrice et directrice générale de la Maison de l'architecture du Québec. Mais au-delà de son travail de designer, Madeleine Arbour a été une formidable communicatrice, entre autres grâce à son travail à la télévision. Elle a diffusé le design à une époque où on n'en parlait même pas. Elle a bien défendu les arts décoratifs, confirme le directeur général et artistique du Centre international d'art contemporain de Montréal, Claude Gosselin, qui explique que, lorsqu'elle participait à l'émission La boîte à surprises, Madeleine Arbour apprenait aux jeunes téléspectateurs à inventer des choses. Claude Gosselin dit d'elle « Madeleine Arbour savait comment créer quelque chose de beau et de surprenant avec un petit rien. C'était l'imagination au pouvoir, comme le disait très bien Refus Global. » Pour Sophie Gironnet, Madeleine Arbour est parmi les signataires du Refus Global qui en ont le plus incarné l'esprit, et ce, pendant toute sa vie. Elle était très libre et ne s'embarrassait pas des conventions. De leur rencontre, elle a conservé l'image d'une femme élégante, mais aussi espiègle, qui savait charmer son auditoire quand c'était nécessaire. Mais on se rendait vite compte que c'était une main de fer dans un gant de velours. Force de la nature. La cinéaste Manon Barbeau, qui a connu Madeleine Arbour très jeune, son père, Marcel Barbeau, étant lui aussi signataire du Refus Global, raconte qu'elle l'a impressionnée toute sa vie. Elle était d'une profondeur, d'une gentillesse et d'une douceur hors du commun, mais claire et ferme lorsqu'elle exprimait ses opinions, nous a-t-elle dit dans un courriel de La Rochelle, en France, où elle est en résidence d'écriture. C'était une grande amie de mon père, qui l'aimait beaucoup, une alliée fidèle et affectueuse, malgré le tempérament, disons, passionné de mon père, ce qui la faisait sourire. Et quelle élégance toujours! Même à 90 ans, chaussée de ses hauts escarpins pour faire des courses. De fait, Madeleine Arbour était une force de la nature, souligne Sophie Gironnet, qui se souvient qu'à l'âge de 75 ans, elle se baignait dans le fleuve devant sa maison de l'île Perrault. Et elle a été habile à se débrouiller dans la vie sans aide. Elle était très fière de ça. Artiste, travailleuse autonome, mère de famille monoparentale, elle a eu 2 enfants avec le peintre Pierre Gauvreau, qu'elle a élevé seule, Madeleine Arbour aura tout mené de front avec succès. C'est de cela que se souvient sa fille, Annick Gauvreau. Elle a réussi à être présente tout en faisant une carrière phénoménale. C'était une grande organisatrice. Aujourd'hui, je sais que ça n'a pas dû être facile tout le temps. Quand on lui demande à quoi elle pense d'abord quand on évoque sa mère, Annick Gauvreau répond « Le Maine ». Elle travaillait beaucoup quand on était enfant, mais chaque été, on partait pendant 1 mois dans une maison qu'elle louait et elle n'en avait que pour nous. Elle fait la même chose aujourd'hui avec ses enfants et ses petits-enfants. Elle-même artiste, Annick Gauvreau a collaboré à un projet d'art-études dans une école secondaire qui vient aussi de remporter un prix, nous dit-elle avec fierté. Chaque fois que je peux transmettre, je le fais. C'est sûr que ça vient de ma mère. Vous écoutez Une femme qui illuminait le monde, un texte de José Lapointe et Éric Clément, paru le 12 décembre 2024 dans la presse. Fantaisie. Toute sa vie, Madeleine Harbour aura en effet joué un rôle de mentor auprès des plus jeunes et de passeuse. Elle était exceptionnelle. Par la qualité de son travail, mais aussi par sa façon de promouvoir les autres et la profession, raconte la fondatrice du magazine Décormag, Ginette Gadouri, qui l'a connue en 1972. C'était une belle femme à tous les niveaux, physiquement et à l'intérieur, très, très loyale. Les deux femmes ont beaucoup collaboré et étaient voisines dans le Vieux-Montréal. Elles se sont souvent retrouvées pour des 5 à 7 dans le fameux loft de la rue Saint-Paul de la Désagneur, qui était évidemment magnifique et original, avec sa baignoire qui trônait au centre de la pièce. Mais n'est-ce pas une légende urbaine qui fait partie du mythe Madeleine Harbour? Non, c'est vrai. Il était entouré d'un rideau, et elle s'en servait, mais quand il n'y avait pas d'invité. Elle habitait là, en haut, dans le grenier. En plus de son charisme et de son talent, son amie ne manquait pas d'espièglerie, aime dire Ginette Gadouri, qui se souvient de sa créativité et de son imagination sans limite. Il y avait beaucoup de fantaisie autour d'elle. Elle avait une facilité à s'émerveiller qui a tenu toute sa vie. Pas étonnant qu'elle ait réussi à rendre le monde plus beau de sa lumière. Madeleine Harbour, 1923-2024, une grande dame du design disparaît. Une grande dame, une grande femme, libre et engagée, Madeleine Harbour laissera une trace indélébile dans l'histoire du Québec et notamment celle du design. Née le 3 mars 1923 à Granby, elle était tombée amoureuse des arts très jeune. La tapisserie, la danse, le dessin, avec un certain talent. À 15 ans, elle avait dû user d'astuces pour pouvoir accéder à une exposition d'Ozias le Duc, qui l'avait époustouflée. Ne manquant ni de courage ni de conviction, elle se joint le 9 août 1948 à Paul-Émile Bordua, Jean-Paul Riopel, Marcel Barbeau, Fernand le Duc, Françoise Sullivan, Jean-Paul Mousseau, Marcel Ferron, Thérèse Renaud, Louise Renaud, Bruno Cormier, Maurice Perron, Claude Gauvreau, Françoise Riopel, Muriel Guilbeault et Pierre Gauvreau pour lancer le manifeste Refus global, un coup de tonnerre politique, social et culturel dans le Québec rétrograde de l'époque. Pendant des années, la société s'est moquée de nous parce qu'on a signé ce manifeste, racontait Madeleine Harbour dans la presse en 1998. Maintenant, on nous désigne en disant « Voici les signataires du refus global », comme si nous avions des petites ailes et qu'on était des privilégiés. Quand j'ai déclaré à ma mère que j'allais signer le refus global, elle a réuni toute la famille au salon. Elle a dit « Regardez ce que Madeleine va faire ». J'ai alors dit « Ou je signe, ou je sors par la fenêtre du 3e étage ». Madeleine Harbour avait déjà, à 25 ans, la liberté de ton d'une femme déterminée. « Depuis que je suis petite, je sais que pour gagner sa liberté, il faut payer cher, il faut assumer sa différence », disait-elle à Anne Richer dans la presse en 1992. une différence qui l'a amené à boycotter, en 2002, les funérailles de son ami et complice, Jean-Paul Riopel, mécontente qu'elles aient lieu dans une église. Ayant fait la promotion de la laïcité, Madeleine Arbour se plaisait à raconter que lorsque Riopel lui rendait visite dans son loft-atelier de la rue Saint-Paul à Montréal, elle faisait de grandes croix sur les tables pour le taquiner. Le design. Madeleine Arbour a commencé à exprimer son attrait pour l'art comme étalagiste chez Birks en 1939. Elle avait 16 ans et élaborait des vitrines comme s'il s'agissait d'œuvres d'art. Passionnée par la beauté, l'harmonie des couleurs et les beaux arrangements, elle avait en horreur les objets sans âme. Jeune mariée, avec Pierre Gauvreau, elle avait préféré manger sur une planche à repasser plutôt que de s'acheter une table ordinaire. S'étant vite fait une réputation en design, elle ouvre en 1965 son bureau de design intérieur, Madeleine Arbour et Associés. Elle développe ses talents chez Seagram et Archambault. Elle décore la cafétéria du Pavillon canadien à Expo 67 et la Maison du Québec à New York en 1970. Plus tard, de 1987 à 1994, elle aménage et décore les trains de Via Rail en y incorporant des œuvres d'art, notamment de Riopel, Michael Snow et Barbeau. On lui doit aussi la rénovation esthétique des salons des gares de Montréal, Toronto et Ottawa, l'intérieur des avions d'Air Canada de 1986 à 1990 et les salles publiques de la résidence du gouverneur général du Canada à la Citadelle de Québec. Pour ce lieu officiel, elle avait réalisé « Rivière de lumière », un luminaire de 30 mètres de long. Elle a aussi conçu des décors et des vêtements pour le Théâtre du Rideau Vert et la compagnie Jean Duceppe. Une carrière à la télévision. Madeleine Arbour a aussi eu une belle carrière au petit écran dès les premières années de la télévision, notamment de 1959 à 1965, à La boîte à surprises, une émission qui apprenait aux enfants comment bricoler. En 1963, elle crée deux marionnettes pour la télévision, Monsieur X et Monsieur C'est tout. Dans les années 1970, elle participe à la série jeunesse Patoffville et anime une chronique de design intérieur à l'émission « Femmes d'aujourd'hui ». Elle avait adoré ses expériences de télé. Je me souviens du trac qui m'étreignait avant chacune de ses apparitions, disait-elle au quotidien Le Soleil en 2000. Mais je me rappelle surtout l'extraordinaire découverte que fut pour moi la caméra. En construisant la maison de Fanfreluche, par exemple, ce qui me passionnait, c'était de me servir de la caméra pour créer la magie. Avec la caméra, j'avais l'impression d'expérimenter un nouvel accessoire de bricolage. Vous écoutez « Une femme qui illuminait le monde », un texte de José Lapointe et Éric Clément, paru le 12 décembre 2024 dans La Presse. Enseignement. Tout en élevant seule ses enfants à la suite de son divorce, elle fait aussi sa marque comme professeure à l'Institut des arts appliqués de Montréal, puis au Cégep du Vieux-Montréal, où elle crée le programme « Esthétisme de présentation » devenu « Design de présentation ». Elle apprenait aux étudiants comment créer des kiosques d'exposition et des aménagements de présentation de produits. Une première au Québec, qui a ouvert bien des possibilités dans le domaine des arts appliqués. Je commençais toujours mes cours en disant aux étudiants « Allez-vous-en si vous trouvez ça ennuyant », avait-elle raconté en 2018 lors d'une cérémonie au Cégep du Vieux-Montréal qui lui avait rendu hommage en nommant une de ses salles à son nom, et en lui décernant un diplôme honoris causa. Ce qui avait fait dire à Madame Harbour « Je suis d'autant plus enchantée que je n'ai jamais eu de diplôme. » Louise Tellier, une enseignante en design d'intérieur qui avait travaillé pendant 4 ans dans l'atelier de Madame Harbour, avait témoigné à cette occasion du rôle qu'elle avait joué dans sa carrière. « C'est là que j'ai appris les bases de mon métier. Madame Harbour créait des installations épurées, sans superflu, pour ne conserver que l'essentiel, d'où naissent la grâce et la beauté. Elle a toujours su créer de la magie, rendre l'ordinaire extraordinaire. Le design répond à des besoins de calme et de confort, disait Madeleine Harbour. Il dure longtemps en résistant à la mode. S'étant toujours impliquée dans des causes, Madeleine Harbour avait accepté en 1988 de présider le Conseil des arts de la communauté urbaine de Montréal. Elle fut la première femme à ce poste. Elle avait été étonnée qu'on fasse appel à elle. Mais, disait-elle alors à la presse, « Peut-être a-t-on compris finalement que dans tout ce que j'ai fait, aussi bien à la boîte à surprise qu'à Femme d'aujourd'hui, jeunesse oblige ou autrement dit, j'ai toujours tenté d'initier le public, les enfants comme les femmes, aux arts, au design, à la débrouillardise et à l'autonomie. » En quelques dates. 1923, naissance à Granby. 1948, signature du refus global. 1984, mention spéciale du Conseil national du design pour son apport à l'exercice et à l'essor du design au Canada. 1987, devient membre de l'Ordre du Canada. 1998, reçoit le prix Condorcet pour sa défense de la laïcité. 1999, devient chevalier de l'Ordre national du Québec. 2000-2001, expose au Musée national des beaux-arts du Québec. 2002, reçoit le prix de design Sam Lapointe. 2012, reçoit un doctorat honoris causa à l'UQAM. 2018, reçoit un doctorat honoris causa au Cégep du Vieux-Montréal. C'était « Une femme qui illuminait le monde », un texte de José Lapointe et Éric Clément, paru le 12 décembre 2024 dans La Presse.